Écoute, ça fait au moins une demi-heure qu'on parle de relations de travail. Je me sens que ça serait le temps de commencer ce podcast-là. Nicolas Lemieux, bienvenue au Brunch Weightsick.
Merci beaucoup, Paul et Thomas. Content de venir enfin.
Oui. Écoute, aujourd'hui, on parle d'un grand sujet. On va parler des syndicats et d'Amazon.
Mm-hmm.
Mais aussi, il y a Thomas autour du micro aujourd'hui.
Ouais, mais ma bouffe vient d'arriver. Fait que
OK. Ouais. Bon, Thomas va aller chercher son repas, puis nous, on va commencer notre podcast. Yes. Et justement, ici, on aime bien commencer avec une question déjeuner. Puis qu'est-ce qui est cool, Nick, c'est que toi, tu as travaillé dans un restaurant à déjeuner.
Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais ça commencer en disant que je suis vraiment pas expert, mettons, des questions syndicales. Tu sais, j'ai pas étudié là-dessus spécifiquement, mais ça m'intéresse beaucoup. Par contre, j'ai travaillé longtemps dans un resto de déjeuner. Fait que je dirais que je suis peut-être un peu un expert du brunch.
Tu as une expertise en déjeuner, ça c'est sûr.
Exact.
Et ma question, en fait, justement, tu as travaillé combien d'années, en même temps?
J'ai travaillé une dizaine d'années en restauration, puis la moitié de ça facile aux affamés, qui était un resto de brunch qui maintenant marche plus. J'ai l'impression que ça a été racheté, puis sûrement qu'ils lavent de l'argent parce qu'ils sont jamais ouverts. Mais ouais, non, c'est ça, j'ai travaillé là comme presque 6 ans. Là.
Ouais. Puis mettons, c'est quoi que... Mettons, je te demande, c'est qu'est-ce que tu préférais le plus dans les déjeuners? Est-ce que tu haïssais le plus?
Pour vrai, c'était pas mal tout. Bon, l'affaire, c'est que c'était trop gros.
Mettons quelque chose de particulier. Mettons, asti, les patates, ça me gossait, genre.
Les patates, ça me gossait un peu. Non, sinon, j'ai de la misère à penser à l'affaire que j'aimais pas. Mais je veux dire, le repas que j'aimais le plus, c'était un... Je pense que c'est le classique, c'est un Monte Carlo qu'on appelle ça. C'est comme un sandwich avec du jambon effiloché. Mais nous autres, on le faisait avec un bagel. Puis le bagel, il est en pain doré.
Ouh.
Avec le jambon effiloché, puis du fromage dedans, puis comme plein de sucre dessus, puis tout ça. Là. Ouais. C'était particulièrement hot.
Hey, ça clash avec l'épisode qui vient d'être publié, qui est sur le véganisme. Mais oui.
Ouais, c'est ça.
mais oui, ça devait être bon, ça, quand même. Puis c'était cool, parce que c'est ça, moi, j'aime beaucoup aller dans les restos à déjeuner, mais toi, t'as aimé ça? L'horaire et tout?
Ben oui, tu sais, je veux dire, j'ai aimé ça travailler dans la restauration pour... l'espèce de camaraderie que ça crée, là, mais maintenant que je le fais plus, je suis comme content d'avoir des pauses. Là.
Ouais.
C'est quelque chose qui est difficile à revendiquer dans un resto. Là.
Si t'es pas fumeur, t'auras pas de pause.
C'est ça, fait que tu deviens fumeur.
Ouais, c'est ça. Mais bon, aujourd'hui, on va parler justement de syndicats et tout, mais... Avant tout, comment tu te présenterais rapidement pour les gens qui nous écoutent, là, rapidement?
Moi, c'est ça. Je m'appelle Nicolas Lemieux. Je connais Paul à cause qu'on a étudié ensemble en sciences politiques. Puis, sinon, j'ai aussi un autre podcast avec deux anciens collègues de l'UQAM aussi. Ça s'appelle Gauche Terrible Podcast.
On va en parler à la fin.
On va en parler à la fin. Puis, c'est ça. Sinon, je me suis toujours intéressé ça, à la question syndicale puis au travail en général. Puis c'est à travers mon expérience de travailler dans la restauration que ça m'a intéressé. Là. Tu sais, comme à force de rencontrer des gens qui viennent de partout. Puis tu sais, comme je disais tantôt, toi, tu as travaillé dans le service aussi, tu le sais, là, genre, quand tu as des gros rushs, il y a comme une espèce de, ça, de camaraderie qui se crée. Ouais. Puis comme tu as l'impression d'être passé à travers des trucs que personne d'autre a fait l'expérience. Fait que... Moi, c'est ça, c'est de à force de genre rencontrer au sens fort ces gens-là, puis de comme comprendre que leurs conditions de travail n'ont aucun esti de sens, que tu sais, je me suis intéressé à ça. Puis sinon, même juste le mot syndicat m'a toujours intrigué avant de comprendre c'était quoi. Parce que mon père, je me rappelle que mon père avait comme une idée peut-être préconçue un peu des syndicats où est-ce que comme... Ben, dans le fond, ça fait en sorte que le monde travaille moins bien, genre, whatever. Tu sais, j'avais comme tout le discours un peu établi, genre, de la critique du syndicat qui est comme, ben, ça va, c'est de l'argent pour rien. Puis...
Mais c'est une opinion qui est quand même populaire, en une certaine forme.
Ouais, c'est
forme,
ça, c'est assez répandu.
Au Québec,
là. Puis il y a comme une façon que le syndicalisme est organisé aussi qui fait en sorte que c'est ça, là. Tu sais, c'est comme, tu dois pas donner plus que qu'est-ce que le boss te paye, fait que le travail en tant que tel, il va peut-être pas être bien rendu, tu sais. Fait que là, j'avais toute cette conception-là. Puis je me rappelle être rentré à un moment donné dans un cours de syndicalisme ou un cours de, dans mes premiers cours de Sciences Po. Puis j'étais genre, je veux savoir c'est quoi le but d'un syndicat vraiment, parce que j'ai l'impression que ça a été c'est une force historique. Puis je comprends pas pourquoi le monde il trash là-dessus. Tu sais.
Oui, c'est le genre de force qui a comme. C'est historique qui a formé. Tu sais, on parle du Québec. Là, la Révolution tranquille, ça a été beaucoup les syndicats qui ont joué un rôle majeur. Juste les syndicalistes comme personnages historiques, il y en a eu des immenses. Mais dans toutes les sociétés aussi, là, tu sais. Mais toutes les sociétés, je dirais. Le temple plus occidental, un peu, tu sais, qui a été populaire. C'est Europe, Amérique du Nord. Il y a beaucoup. Les syndicats ont joué un rôle majeur dans l'évolution historique. Là.
Mais je pense que c'est le cas un peu partout dans le monde aussi. Là. Je pense qu'on n'a pas besoin nécessairement de restreindre ça à l'Occident. J'ai l'impression que le syndicat devient une force historique dès que le capitalisme finalement prend forme de manière systématique dans une société. Genre, il va avoir une organisation, il va avoir une résistance face au pouvoir des patrons puis des patronnes, mais puis la manière avec laquelle que ça s'organise, ça, c'est là que ça devient intéressant de réfléchir.
Ouais, t'as raison. Puis la raison pourquoi je disais aussi occidental, c'est surtout parce qu'en fait, je voulais pas mettre les pieds dans les plats et parler de choses que je sais pas.
Non, ça, je comprends, mais je pense qu'on peut quand même assumer que tu sais, comme par exemple, là, en Chine, on parle de la Chine communiste, puis blablabla, mais il y a quand même du travail organisé de manière industrielle, puis tout ça. Puis il y a quand même des syndicats organisés qui résistent à ça, tu sais, comme... Je pense que c'est comme un peu une règle générale de comme... Quand il y a de l'oppression, il y a une résistance, puis elle s'organise d'une manière ou d'une autre. Là,
ouais. Puis là, aujourd'hui, justement, on va parler d'un cas particulier qui va comme pas mal... En fait, c'est pour ça que je t'ai invité aussi. Mm-hmm. Je t'ai écrit, j'ai dit « Yo, t'as-tu vu ce qui se passe chez Amazon, ces syndicats? » Puis tout ça, tu m'as dit « Ça tente-tu faire un épisode là-dessus? » Mais ça, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Amazon?
Ben là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans les deux dernières années... Je pense que c'est vraiment le mouvement dans l'État de New York américain. C'est ça, c'est un entrepôt autour de la ville de New York. Là. Je ne sais pas exactement la place, je ne me rappelle plus, mais un peu en périphérie. Pour faire une longue histoire courte, là, la résistance a vraiment commencé à s'organiser en 2020 quand que la pandémie a vraiment s'est installée. Puis, ben donc, il y a des travailleurs puis des travailleuses qui ont décidé de faire... quelques walk-outs spontanés. Là, t'sais. Fait que ce qu'on appelle une grève sauvage. Là, t'sais. Juste faire comme, non, là, ça va faire... Les mesures de sécurité pour la pandémie de sanitaire que vous avez installées sont pas bonnes. On se sent pas safe dans notre job. Fait qu'on sort. Comme on travaillera plus aujourd'hui à partir de telle heure. Fait qu'il y a eu ça qui est arrivé. Il y a eu des boucs émissaires qui ont été identifiés par... le management de cet entrepôt-là, notamment Smalls, que j'ai oublié son prénom.
Christian Smalls, mais je pense que tout le monde l'appelle Chris Smalls.
Ouais. Bon, notamment cet homme-là qui s'est fait renvoyer en 2020.
C'est fou parce que justement, tu disais, genre, c'était vraiment les employés qui étaient comme, c'est plus devenu un espace de travail sécuritaire, qui étaient comme vraiment au centre de leur. Comme, c'était même pas au début une question de comme. Donc, plus générale, question de travail, salaire. C'était vraiment juste comme, c'est vraiment pas sécuritaire de la façon que vous gérez ça. Là.
Mais ça passe souvent de là, j'ai l'impression. Puis là, c'est ça, c'est qu'ils sont arrivés comme à un espèce de turning point, tu sais, comme... Puis c'est toujours une bonne stratégie aussi d'utiliser une crise de même pour faire comme qui ça va faire. Là. Mais bref, fait que là, ils sont sortis. Chris Moss s'est fait renvoyer. Puis ce que j'ai compris, c'est que lui, assez vite, il a juste commencé à venir devant l'entrepôt puis mobiliser les gens. Là, pendant ces deux années-là, il a commencé à builder une équipe d'organisateurs puis d'organisatrices à force de juste faire du tractage, donner des tracts, informer les gens sur les bienfaits d'un syndicat, donner de la bouffe aussi. Là, je pense que ça a été comme un gros truc. Là.
Si je me trompe pas, il était carrément au bus stop, là, genre à l'arrêt de bus devant Amazon, où tous les travailleurs, puis lui, il était comme toujours là, à comme attendre, puis genre, il jouait de la musique, il faisait de la bouffe, genre, il faisait des événements, donc tranquillement, le monde le voyait. Genre,
c'est ça. Puis il... Juste, je pense qu'il est comme rapidement, ils ont compris qu'ils pouvaient juste exploiter comment là, c'est paradoxal ce que je veux dire, mais exploiter comment que Amazon exploite les travailleurs pour les convaincre, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est comme, fais juste laisser le monde continuer à vivre cette exploitation-là, puis toi, tu te mets à la fin ou au début, à la porte d'entrée, puis tu dis, ça pourrait être différent. Tu sais, comme, on va s'organiser, ça pourrait être différent.
T'as pas à tolérer ça.
Non, c'est ça. Mm-hmm. Puis comme éventuellement, ça rentre dans la tête du monde, puis tu leur dis, tu sais, je pense que c'est ça qu'ils ont fait aussi, c'est que face à un employeur comme Amazon, c'est facile d'avoir l'air humain, là. Mm-hmm. Fait que moindrement que tu te dis, genre, moi, je care comme à propos des différences que tu vis dans ta vie, à propos du fait que il faut que tu rentres à telle heure chez vous parce que t'as un enfant à nourrir ou whatever. Je comprends ça parce que moi aussi, je le vis à peu près, tu sais. C'est facile de paraître humain face à Amazon qui est pas capable pantoute, tu sais, de l'être, là.
Ouais. Mais tantôt, on va pas la faire tout de suite, je t'avais dit, on va faire une parenthèse Amazon tantôt. Ouais. On va parler de notre opinion d'Amazon et de Jeff Bezos, mais justement, puis c'est ça. Puis lui, justement, dans, un peu par lui-même, puis avec une petite équipe, a commencé, puis il a réussi le tour de force de comme syndiquer le premier entrepôt Amazon.
Aux États-Unis.
Ouais.
Fait que c'est ça, c'est important de savoir qu'il y en a d'autres ailleurs dans le monde. Je pense pas qu'il y en a au Canada qui sont syndiqués encore, là. J'ai pas regardé, mais il y en a en Europe qui sont syndiqués.
Déjà.
C'est déjà une preuve que ça se peut, que la shop va pas fermer à cause qu'il y a un syndicat. Encore plus dans le contexte où est-ce que c'est une grosse entrepôt, puis c'est pas comme un McDo où est-ce qu'il y a d'autres McDo pas loin, fait que c'est pas grave, ils perdent pas leur
c'est part. Des gros de entrepôts, je pense que c'est comme 1500 employés.
Ouais, c'est ça.
Immense, là.
C'est ça, au moins 1500 employés, puis fait que c'est pas... ils peuvent pas... comme jeter tous ces investissements-là à la fenêtre à cause qu'il y a un syndicat. Mais...
C'est ça, mais qu'est-ce qu'il y a... C'est là, on l'a dit un peu, là, le gars, il a réussi à faire un véritable tour de force de syndiquer. Puis genre, j'aimerais qu'on parle justement de pourquoi c'est important, les particularités de la façon qu'il l'a fait.
Ouais.
Parce qu'il y a plusieurs choses, puis une chose, c'est que lui a réussi... où, par exemple, les grosses centrales syndicales, ont complètement échoué à faire.
Ouais. Absolument. Fait que c'est ça, le truc qui est vraiment particulier et impressionnant de ça, c'est qu'il n'y a pas de centrale qui s'est impliquée. Il n'y a pas de centrale qui est venue, qui n'ont pas... Tu sais, d'habitude, mettons, les centrales vont genre envoyer du monde une fois qu'il y a une demande qui est faite. Mais c'est pas ça qui est arrivé, c'est carrément juste des gens qui ont décidé de s'organiser puis d'éventuellement travailler à une campagne pour un vote d'accréditation du syndicat. Puis ça, c'est la manière légale de faire. Puis, je pense que c'est une technique qui est plus difficile au sens où est-ce que la mobilisation, elle vient carrément du monde. Comme, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'énergie puis de fonds qui est comme amené de la centrale, tu sais, la force de la centrale.
Il n'y a pas comme du monde qui débarque avec la centrale avec plein de flyers puis des bouteilles d'eau.
C'est ça. Puis que eux autres, ils ont du cash pour ça, tu sais. Il a fallu qu'ils fassent des levées de fonds. Il a fallu qu'ils payent chacun de leur poche. Puis déjà, ils ont mis du temps, tu sais, comme à l'extérieur des heures de travail pour organiser ça, faire les potlucks, faire les bouffes, faire les parties.
Toute leur histoire, si vous voulez aller creuser là-dedans, il y a plein d'entrevues avec justement avec lui, là, Chris Small, qui est d'ailleurs un personnage vraiment intéressant, là. Mais genre, c'est vraiment... ils ont fait ça c'est avec les moyens du bord. Là.
Ouais.
Puis c'est ça qui est comme vraiment fou. Là,
ouais, mais avec les moyens du bord puis avec la conviction qu'il allait gagner, je pense que c'est surtout ça. C'est qu'il y avait la conviction que c'était possible puis que ça allait le faire. Puis si on perd là, on va gagner après.
Mm-hmm.
Puis à force d'y aller, ils sont allés, tu sais, ça a marché. J'ai l'impression que c'est comme une stratégie un peu... c'est ça, on va dire grassroots, là, de la base.
Ouais.
Mais fait que c'est un peu comme une stratégie communautaire aussi, là, tu sais. Tu sais, vraiment, autour de la bouffe, autour des cultures des gens, tu sais, mettre de l'emphase sur, justement, la culture des personnes, puis faire comme... tu sais, Amazon, ils s'en foutent de tout ça, genre, tu sais. Après ça, ils ont exploité aussi les tactiques que Amazon ont utilisées pour réprimer l'organisation. Tu sais, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle du union busting.
Ouais, explique ça pour que les gens...
Fait que union busting, littéralement, ça veut dire genre destruction du syndicat, je sais pas, là, mais comme des techniques de...
Des stratégies antisyndicales.
Des stratégies antisyndicales pour persuader les gens de voter contre, en fait. Mm-hmm. Tu sais, c'est une campagne syndicale, ça se finit dans un vote. Mm-hmm. Puis, ben, le patron a intérêt à ce que les gens votent contre parce que, mm-hmm. bon, ben, il va falloir recommencer le processus, puis... Ben, le syndicat va pas avoir lieu tout de suite. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de stratégies déjà qui sont illégales.
T'es-tu en train de me dire que, par exemple, une entreprise comme Amazon va absolument tout faire, même des pratiques complètement illégales, pour empêcher les gens de légalement s'organiser?
Oui, absolument. ils vont y aller parce qu'ils peuvent se permettre de payer l'amende, la réprimande d'avoir commis un certain crime, par exemple. Ils peuvent pas. Tu peux pas avoir de personnes qui représentent les patrons au moment du vote pour te parler, genre.
OK.
Puis je sais qu'il y a eu un autre vote qui a pas passé dans un autre entrepôt, ouais. Amazon, où est-ce qu'ils ont fait ça. Puis là, ben, il va falloir qu'ils recommencent la campagne parce que ça a été prouvé que Amazon avait placé du monde à côté des bulletins de vote.
Il a fait des pratiques illégales.
C'est ça. Fait que ça fait partie de ceux-là. Sinon, d'autres pratiques, c'était carrément de la propagande contre les organisateurs. Les organisateurs puis les organisatrices étaient par la force des choses, là, parce que ben, c'est comme ça que la démographie est faite à New York. Mm-hmm. Bien, ils étaient principalement des personnes non blanches, genre, mm-hmm. des personnes noires et brunes, qui vont dire, eux autres. Puis, Amazon puis les compagnies de Union Bus qui ont engagé, mm-hmm. ils ont utilisé de la propagande genre raciste, basically, là, en disant comme ce que Smalls il veut, c'est s'acheter une Lamborghini, là, tu sais, puis être un thug, là, comme
tous
les vieux stéréotypes
dégueulasses, là.
Ouais vraiment poche. Mais c'est comme ça que je voulais dire tantôt, c'est que les organisateurs, organisatrices, ils ont vu ça, puis ils l'ont utilisé à leur avantage, parce qu'ils savaient que leurs membres, puis les groupes, ben, les travailleurs puis les travailleuses allaient comme faire comme « what?
Mm-hmm. »
Genre déjà, ils sont 60% non-blancs, genre, fait qu'ils sont, ils voient comme « vous voulez qu'on vote de votre bord, puis vous essayez de nous convaincre avec des arguments genre raciaux, ça va mal, là.
Mm-hmm. »
Fait que ça, tu sais, être prêt à réagir à toutes ces résistances-là, savoir que ça s'en vient. Une autre chose qu'ils font en union busting, c'est carrément engager des personnes à travailler dans Amazon.
Mm-hmm.
Puis eux autres, ils sont comme drillés avec la propagande comme antisyndicale. Ils font partie de la maison genre de union bus. Fait que c'est des taupes, dans le fond.
Ok, ouais, genre, du monde qui vont espionner.
Ouais. De la même manière qu'il y a des révolutionnaires qui vont aller s'engager dans des usines pour la faire tourner syndicale.
Ouais, c'est ça.
Okay. Mais t'en as de l'autre bord qui voient comme qui sont engagés par les boss pour comme essayer de convaincre le monde de pas voter contre, de pas voter pour. Puis ce qu'ils ont fait à Amazon, c'est qu'ils les identifiaient. C'était assez facile à les identifier parce que ces gens-là sont pas working class. Genre, ils sont beaucoup plus riches que leurs compatriotes de travail. Puis après ça, ils ont mis des affiches écrites comme « Wanted, telle personne partout dans le shop ». Puis ben, c'est comme « ben faites pas confiance à cette personne-là, il essaie de vous… » Puis comme, moi, j'imagine très bien qu'ils mettent genre une estimation de leur salaire en dessous. Là, comme ces personnes-là sont payées genre vraiment cher à vous convaincre de pas voter pour le syndicat. Ça donne un autre argument à voter pour. Là.
Mais ça, c'est les… Ils ont réussi malgré… C'est ça qui est… impressionnant en soi, c'est qu'il n'y avait pas de moyens. Mm-hmm. Puis Amazon a fait toutes les crosses possibles pour les pas avoir, puis ils l'ont eu. Puis je sais que j'avais écouté une entrevue avec, c'était justement avec Chris Small, qui disait qu'un des points tournants aussi de la c'était dans la campagne où il y avait le vote, emmener lui, il est comme rentré pour donner de la bouffe. Puis le monde d'Amazon, ils ont pris la sécurité, puis l'ont crissé dehors, puis ils voulaient comme pas. Puis il s'est fait arrêter. Mm-hmm. Puis un autre gars, puis ça a été un des gros turning points de comme. La campagne de vote, parce que tout le monde finissait par connaître ce gars-là.
Oui,
genre, parce qu'il était toujours devant et tout, puis il était comme, même s'il y avait du monde qui hésitait, il était comme, OK, ça c'est genre, vous êtes allé trop loin.
Ouais, c'est ça. Des fois, la répression, finalement, ça, comme quand tu pousses l'oppresseur, dans ce cas-là, les patrons, à aller à défendre vraiment leurs intérêts, mais ils montrent leur vraie couleur. Puis après ça, les personnes qui sont opprimées ou les personnes qui sont exploitées dans ce cas-là, ils sont comme... Ouais, finalement, peut-être que je suis d'accord, tu sais. Genre, j'avais l'impression qu'il allait trop loin, là, Smalls avec ses affaires de comme vouloir faire la grève puis tout ça, mais... Genre, il voulait juste venir me donner de la bouffe, là.
Non, puis c'est... Puis aussi, je pense que j'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment une perspective de classe. C'est dans le sens où, genre, Chris Small, il était vraiment comme tout le monde qui était là, là.
Mm-hmm.
Ce gars-là, puis ça, moi, je veux qu'on parle aussi des... Comment, à quel point, genre, cette méthode-là diffère de tout ce que le mouvement syndical aux États-Unis ressemble avec les grosses centrales, puis au Québec, tu sais.
Mm-hmm.
Tu regardes ce gars-là, tu sais, il donne des entrevues, là, juste quand... Juste l'habit, tu sais, il est pas en costume cravate, le gars, là. Genre, il fait pas semblant non plus, là. Il est vraiment de même, là.
C'est très nice à quel point il joue pas le jeu de l'élite, là, en fait, tu sais, c'est ça. Puis il assume full, il porte les grills tout le temps, genre,
Mais c'est qu'il fake pas aussi.
Non, c'est ça,
tu vois que c'est comme complètement honnête, là. Genre, puis il parle de son vécu, puis genre... C'est ça qui est, comme, tout dans cette campagne-là, c'est... On dit que ça vient de la base, c'est vraiment toutes les parce que lui, il y avait lui, mais il y avait d'autres mondes autour de lui, genre, tout du monde qui, genre... Toutes des femmes monoparentales, des genre... Vraiment du monde de la... Genre,
c'est ça, les gens qui travaillent là, tu sais, c'est carrément les gens qui travaillent là qui finissent par s'organiser pour défendre leurs propres intérêts.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça, je pense que la force est quasiment existentielle à travers ça comparé à des gens qui sont engagés pour aider d'autres mondes, tu sais, pour ce qui est de la centrale. Puis les gens qui sont engagés pour organiser d'autres mondes, eux autres, ceux qui font une tactique plus grassroots, c'est plus facile de gagner la confiance des autres en leur disant comme j'étais là moi aussi, tu sais, quand ça s'est arrivé, quand que telle autre personne a crié, comme le contremaître a crié après la jeune femme qui, puis nous autres on sait qu'elle a deux autres jobs, genre j'étais là quand que il y a quelqu'un qui était blessé puis qui ont rien collissé, tu sais, comme on s'en rappelle tout ensemble, on a vécu ça ensemble, tu sais. Pour moi, je sais pas si dans l'entrevue qu'on avait regardé ensemble, là, ben, que je t'avais partagé, tu te rappelles, mais il y a un bout où est-ce qu'il parle de peak season, je pense,
Amazon.
Puis ça, c'est comme le mois de rush. Là. J'imagine que c'est le mois autour du temps des fêtes, là, potentiellement genre Black Friday, Noël.
On peut bien s'imaginer.
Puis ça, tu sais, comme il y a une des panélistes organisatrices qui en parle, puis tu vois dans ses yeux, c'est comme... Fait que peak season, c'est le genre d'affaire comme les travailleurs puis travailleuses d'Amazon, ils en passent pas beaucoup, genre. Comme souvent, il y en a qui vont quitter rendu là ou après, ou c'est rare qu'ils font plus qu'une année, fait que... Mais pour moi, ça, c'est exploiter ces genres de moments-là pour trouver une solidarité, genre, à travers ça, tu sais. C'est comme, moi aussi, j'ai passé à travers peak season, où est-ce qu'on faisait 12 heures par jour, back-à-back, puis regarde combien ils ont fait d'argent.
Ouais.
Tu sais?
Puis c'est pendant qu'eux, ils vivaient les pires moments de leur vie. Ouais, mais l'entreprise, elle, est comme genre...
Genre un stress est comme irréparable, tu sais? Puis où est-ce que ça a un impact sur leur vie personnelle, comme directement. Puis tout ce qu'ils ont, c'est leur support system auto. Mm-hmm. Puis l'entreprise fait juste ramasser le bag, là. Vraiment beaucoup. Puis dans les deux dernières années, Amazon, ça a comme triplé, là. C'est genre...
Oui, parce que, disons-le, genre, on peut y aller là, mais genre, Amazon, c'est une compagnie qui a comme complètement explosé, qui fait des profits monstres. Ben, Jeff Bezos, c'est quoi? C'est l'homme le plus riche au monde, si je ne me trompe pas. Mais qui laisse leurs employés...
Techniquement, c'est Elon. Ouais, c'est récent, là, mais il a réussi à...
Tu vois, je l'aime fait, pas là, plus.
Je veux pas le savoir.
Non, mais Elon Musk, mais c'est ça. Puis c'est
Une richesse absolument inconcevable. Genre,
inconcevable, en fait. Basée sur l'exploitation.
Parce que Tesla aussi, il y a eu quand même une couple de trucs qui sont arrivés là, avec Tesla, des affaires
de genre
mais un peu le même genre qu'Amazon, là, pas de pause piste, 12 heures.
Dans l'usine, clairement.
Non. Puis tu sais, des trucs, ils font faire des trucs dangereux à du monde. Ils prennent du monde qui sont plus petits pour aller comme fouiller dans les machines. C'est comme si pendant la Révolution industrielle, quand ils envoyaient des kits de 12 réparer des trains, là, mais c'est ça.
Mais ça, c'est une des entreprises ultra riches, mais genre ultra riches, avec les employés les plus pauvres.
Ouais.
pendant que le gars... Puis d'ailleurs, Chris Maul...
Mais c'est pas pour rien que c'est la plus riche. C'est explicitement parce que c'est les employés les plus pauvres, quasiment.
Mais Amazon, pour moi, c'est une des compagnies les plus dégueulasses qu'il n'y a pas. Genre. Mm-hmm. Je les haïs sur... J'aime rien d'Amazon. J'aime rien.
T'aimes pas leur service? Même parce que le service, il est quand même hot.
Je sais pas. Mais oui, leur service est hot. Le seul problème, c'est que leur service est hot parce que ils exploitent du monde comme des fous, puis parce qu'ils font du dommage. Je veux dire, dans mon bloc, le nombre de fois où je reviens le soir, puis il y a comme 8, genre, devant chaque porte, il y a des papiers Amazon. Tu sais, tout le monde va là du jour au lendemain, puis c'est ça parce que je comble. Non, enfin, je suis pas d'accord avec le monde, moi, j'ai jamais magasiné là, mais genre, c'est vraiment, ça s'est imposé partout, mais avec un modèle d'affaires qui est comme... C'est le capitalisme le plus sauvage qu'on a jamais vu. Là.
Ben, c'est une forme de capitalisme qui est vraiment adaptée à... Tu sais, qui a réussi à s'adapter au contexte en ce moment, puis qui a comme 100% exploité la crise de COVID-19. À un point comme extrême, tu sais.
Ouais.
Mais c'est un bon moment aussi pour organiser. Quand il y a comme un surplus à ce point-là, c'est un bon moment pour négocier une meilleure part de ça aussi. Ouais. Non seulement sur l'argumentaire, parce que c'est comme, ben là, vous avez fait trois fois plus d'argent qu'avant, vous pouvez au moins augmenter nos salaires, tu sais.
Ouais.
Vous pouvez au moins nous payer des congés de maladie ou whatever. Là. Vous allez pas comme devenir banqueroute à cause de ça.
Ouais.
Mais aussi juste matériellement, il y a carrément plus d'argent à aller chercher.
Ouais.
C'est comme directement... genre, quand on commence à y penser de manière super stratégique, effectivement, chaque entreprise n'est pas syndicable aussi facilement l'une que l'autre parce qu'il n'y a pas le même profit.
Mm-hmm.
Tu sais, par exemple, les restaurants, c'est plus sketch parce qu'ils ont une marge de profit de 3%. C'est tout le temps possible à organiser. Ça ne veut pas dire que c'est impossible.
Mm-hmm.
Mais la marge de manœuvre pour l'employeur puis pour les employés organisés d'aller chercher un peu plus pour eux et elles est moins grande que là sur Amazon, est comme infinie.
Ouais.
Tu sais, est beaucoup plus grande. Tu sais, il y a une limite quand même, là, mais on pourrait l'identifier puis faire comme qui fait que tu nous dois ça, genre. Tu sais.
Ouais.
Puis on peut le demander, on le sait, on est capable de faire le calcul, là. Comme, t'as pas besoin de t'acheter un autre yacht, t'as pas besoin de...
T'as pas besoin d'aller dans l'espace, tu sais. Oui, puis d'ailleurs, c'est Chris Maul...
On peut-tu faire un épisode où ce qu'on talk shit sur le monde qui va dans l'espace?
Oui, mais même là, tu sais, je veux dire, Chris Maul, il avait fait un call justement après qu'ils ont gagné le vote, etc., qui est sorti, puis il était comme, il aurait dit, j'aimerais remercier Jeff Bezos, parce que lui, pendant qu'il est dans l'espace, ben nous, on a syndiqué le premier...
Ouais, pendant ce temps-là, on signait des cartes.
Mais c'est pas qu'il y a une simple... Puis oui, d'ailleurs, oui, on pourrait faire un épisode sur chialer sur le monde qui va dans l'espace. T'sais, je veux dire, moi, chez nous, j'essaie de faire du sans-déchet, tu sais.
Ouais.
Pendant que moi, je suis en train de nettoyer mes pots, là, pour aller chercher mon beurre de peanut, il y a du monde qui va dans l'espace. C'est quoi?
Il y a des gens qui ont des yachts personnels, tu sais. Ils ont comme un bateau de croisière pour eux, avec toute l'équipe qui travaille pour son souper, puis pour faire runner le bateau. Puis après ça, il y a le culot de demander à je sais pas quelle ville en Europe de démanteler le pont
pour qu'il passe
son bateau.
Ah, man. Mais c'est ça, c'est les riches, c'est comme... C'est pendant que nous, on se fait tout chier à essayer de faire notre part, il y a du monde qui font ça. Tu sais, Mais c'est ça, je trouve qu'Amazon représente parfaitement ce genre de... de comme violence-là, de comme... genre hypocrisie à fond la caisse, puis genre dégueulasse. Puis c'est pour ça que c'est un gros turning point, la syndicalisation de cet entrepôt-là. Parce que, aussi, d'ailleurs, s'ils en parlent, genre, depuis qu'ils ont réussi leur campagne, ils reçoivent des appels de partout des États-Unis. Là.
Puis partout dans le monde. C'est inspirant pour n'importe quelle personne qui pense à syndiquer une place comme une autre. Je pense qu'eux autres, ils vont avoir des stratégies comme pour Amazon parce qu'ils savent comment c'est organisé. Mm-hmm. Ça, c'est une autre affaire que j'aimerais amener que je pense que Smalls a discuté, ou en tout cas, c'est une manière de bien organiser, genre une façon de bien... En tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour organiser une place qui est un travail qui est capitaliste?
Mm-hmm.
C'est exploiter la manière que le patron organise le travail.
Mm.
En gros, le patron ou la patronne, c'est le meilleur organisateur. Parce que, par exemple, tu sais, vraiment, concrètement, l'entrepôt, il est construit d'une certaine manière. Le bus stop, il est à une place en particulier. Ouais. Mais comme tu disais tantôt, il s'est mis là.
Ouais.
Parce que tout le monde passe par là. Mm-hmm. C'est comme une bonne place pour ramener ton message. Mais tu sais aussi qu'éventuellement, tout le monde prend sa pause là. Genre, fait
mm-hmm.
tu peux ouais. utiliser ça. Puis tu sais aussi qu'à ce mois-là, tout le monde est fucking tanné puis haï Amazon. Fait que c'est un bon moment pour essayer d'aller chercher plus de signatures. Tu sais, comme utiliser la manière que le travail est organisé par les boss à l'avantage du syndicat, tu sais.
Ouais. C'est vrai que ce que tu dis, la façon, c'est ça, ils nous organisent.
Exact.
Quand tu travailles pour une entreprise, ça fait en sorte que vous vivez toutes la même chose, le même horaire. Après, j'imagine Amazon, en plus...
Mais c'est tout systématisé, tu sais.
Ouais.
Surtout dans une grosse entreprise comme celle-là. Puis là, on parlait avant de PM qui est devenu plus capitaliste, plus standardisé. Mais eux autres, ils doivent couper toutes les dépenses, tous les coûts, et avoir rien qui coule, tu sais. Il faut que ce soit... aucune scène noire de gaspiller. Puis pour faire ça, il faut que ça soit organisé genre extrêmement précisément. Genre les mouvements de chaque corps est organisé. Fait que ça, savoir cette organisation-là, genre, puis l'exploiter pour la tourner contre elle-même, là, finalement, parce que le but, c'est d'avoir le plus de pouvoir sur cette organisation-là. C'est la première chose à faire, je pense, stratégiquement.
Oui, puis c'est limite la seule façon de s'assurer de son bien-être en tant qu'employé d'une entreprise. C'est, la réalité, c'est que ces entreprises-là n'ont rien à faire du bien-être de leurs employés. Puis d'ailleurs, Amazon, c'était une excellente... C'est comme, ils étaient en pleine pandémie mondiale. Il y avait peur. Puis c'est super intéressant. Là, sérieux, aller voir des entrevues, ils expliquent comment ils étaient en pleine pandémie puis il y avait des éclosions dans l'entrepôt systématiques. Tout le monde pognait la COVID puis ils refusaient de fermer. Genre, même pas 24 heures. Ils étaient comme, on reste ouvert. Puis les employés étaient comme... c'est plus sécuritaire.
Ah ouais, il y a du monde qui vont mourir. Puis il y en a eu, tu sais, comme on a entendu des histoires aux States de comme un corps à terre, puis qu'un travailleur qui est comme poussé à juste l'enjamber pour comme continuer à travailler. Bon, les autres histoires de pisser dans des bouteilles pour les drivers, tout ça. T'sais, ça a fait en sorte, comme ça c'est cool, ça est sorti des médias parce que ça a fait en sorte qu'Amazon a dû comme répondre à ça, faire comme... Non, mais tu sais, comme vous pouvez prendre une pause pour aller pisser. Genre, on sait que comme notre horaire, il fait en sorte que c'est impossible, mais comme prenez-la là, votre pause, c'est correct. Là, t'sais.
Mais tu sais, c'est des machines qui veulent tellement maximiser le profit, mais à un niveau incroyable. Que
ben, infini. Là, c'est juste qu'il n'y a pas de fin à la croissance. Là, t'sais. Et la preuve, c'est que la métaphore parfaite, c'est que c'est les patrons de ces entreprises-là sont carrément en train de aller voyager en espace, là, parce que la Terre n'est pas suffisante pour eux maintenant. Là, comme, ils n'ont aucune
estimabilité. Ils sont en train de la péter aussi.
Oui, c'est ça. Il faut déjà qu'ils trouvent une porte de sortie. Là.
Ils sont en train de sacrer le camp. Mais justement, qu'est-ce qui... Parce que cette syndicalisation-là va quand même dans un peu le sens contraire de qu'est-ce qui se passe un peu, je vais parler d'Amérique du Nord, avec les syndicats en général. Parce que j'entends depuis quelques années, je dirais même, j'ose dire, depuis les années 90, il y a un certain effondrement des mouvements syndicaux.
Ouais. Puis c'est partout là, en Amérique du Nord, mais ça a été vraiment grave aux États-Unis. Là. Un des trucs qui a vraiment été un coup en Amérique du Nord, c'est quand, c'est en 79, il y a eu ce qu'on appelle maintenant le Volcker Shock.
Mm-hmm.
J'essaie de retourner dans mes affaires.
C'est technique, mais
bref, aux États-Unis, ils ont augmenté les taux d'intérêt radicalement, ce qui a fait en sorte, qui a fait boule de neige, créer une grosse récession, puis fait en sorte de fermer beaucoup d'entreprises manufacturières en Amérique du Nord. Tu sais, tout à Détroit, les places de char, puis tout ça. Fait que ça a fermé, puis ils ont dû, dans le fond, faire du outsourcing. Eux autres sont allés chercher, sont allés mettre leur production à l'extérieur du pays ou comme dans les États plus au sud, qui avaient moins de... que le salaire était plus facile à négocier. Puis ce que ça a fait, c'est que ces shops-là ont fermé, puis c'était des shops syndiqués. Fait qu'il y a eu, au tournant des années 80, comme des millions d'emplois syndiqués qui ont été supprimés. En fait, comme suite à cette mesure politique-là, là, tu sais. Fait que c'est important de se rappeler qu'il y a eu comme une conséquence, il y a une cause politique à ça aussi. Puis l'État n'a pas encourager ça, là, l'État néolibéral. Puis, fait que depuis ce temps-là, on a déjà, bon, ça a été un premier coup. Puis depuis ce temps-là, les syndicats ont commencé à travailler plus en partenariat avec le patronat, dans le fond, mm-hmm. puis avec l'État, de manière à essayer de conserver les acquis mm-hmm. de nous, notre révolution tranquille au mm-hmm. Québec, puis ben, du New Deal, par exemple, aux États-Unis. Ouais. Fait que depuis, c'est ça, comme tu l'as dit, des années 90, fin 90, les syndicats sont pas combatifs du tout.
Ouais.
Ils vont quémander que, ben, en fait, ils vont négocier les coupures.
Ouais.
Tu sais? Ce qu'on va voir aussi beaucoup, c'est des syndicats de boutique.
Ça explique ça, c'est super important. Ouais. C'est intéressant parce que c'est. D'ailleurs, c'est le genre de pratique qui se fait encore.
Là. Oui, oui, ça se fait encore. Au Québec, le meilleur exemple, je pense, c'est les syndicats qui ouvrent tout de suite en même temps qu'une épicerie.
Ouais.
La plupart des épiceries au Québec sont syndiquées, puis elles le sont avant même d'ouvrir. Mm. C'est que c'est la TUAC, ils sont ouais. déjà là-dedans. Puis dans le fond, c'est un peu, pour résumer le truc, là, la définition d'un syndicat de boutique, c'est un syndicat qui est là pour
éviter qu'il y ait un autre syndicat plus combatif qui
exactement.
Prenne la place.
Puis qui revendique plus ouais. de conditions de travail. Fait que tu vas avoir un syndicat qui va au moins défendre les normes du travail.
Ouais.
Mais généralement, ça va être ça.
Ouais.
Justement, ça me fait penser, tu disais qu'ils vont... Ils vont mettre ça en place justement pour faire en sorte qu'il n'y aura pas un autre syndicat qui va venir prendre la place puis ouais. être plus combatif. Moi, là, quand j'étais syndiqué, c'était une de mes premières jobs à Québec dans une épicerie, justement. Ouais. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont collé le responsable du syndicat. Ils ont... c'était le gars le plus désagréable de ouais. l'épicerie. C'était fait exprès. C'était le boucher. T'allais le voir, tu lui parlais du syndicat, il répondait pas, puis il crissait son camp. Fait que t'étais syndiqué, t'avais mais... des heures assurées.
Ouais.
Ça se limitait pas mal
c'est à ça. C'est strict minimum.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Mais... le strict minimum, des fois, c'est déjà genre tellement mieux que pas de n'avoir.
Ouais,
mais...
ça, parce
oui,
que...
sans aucun doute. C'est sûr que t'es content de l'être pareil, for ouais, sure, ouais. Là, mais c'est ça, tu sais, il y a quand même l'espèce de petite tactique un peu.
Ouais, ouais,
ouais.
Un peu coup de chien, là, de comme. Mm-hmm. Oui, t'es syndiqué, mais.
Mais.
Genre,
comme...
ta gueule, viens pas poser de questions.
C'est ouais. ça.
T'es syndiqué.
Genre, ouais. C'est ça. Puis c'est le genre de syndicat qui va donner comme mauvaise réputation
à tous les syndicalistes,
parce que c'est comme. Ça a l'air d'être un syndicat qui couche avec les boss parce que c'est le lit. Ouais, c'est fait que t'as l'impression finalement de cotiser juste pour être sûr de pouvoir prendre congé deux semaines en avance. Là, ouais. mais...
Puis d'avoir une convention collective qui, il faut le dire, est quand même mieux que
oui.
pas avoir de convention. Parce que c'est comme ça, moi et Thomas, on a travaillé pour une entreprise qui n'était pas syndiquée. Puis en gros, là, les boss peuvent faire n'importe quoi.
Ben,
c'est fou à quel point. En fait, c'est un minimum. Tu travailles pour une grosse entreprise, là. Si t'as pas de convention collective, t'es.
Mais les
tellement
normes du travail
vulnérable.
Sont souvent pas respectées s'il y en a
si
pas.
Moi,
parce qu'il y a pas personne pour les surveiller.
Si moi, ça me trouble à quel point. Puis on l'a vu avec Amazon, mais ça se fait tellement au Québec à quel point les employeurs en ont rien à faire des normes du travail.
Mm-hmm.
Oui, en fait, ils vont les respecter un minimum, mais dès qu'ils vont essayer d'en passer une petite vite, ils vont en passer tout le temps. Là.
Ah oui, s'ils peuvent, ils vont le faire. Puis l'affaire, c'est que les gens. Connaissent pas leurs droits ou ils savent mm-hmm. pas les revendiquer ou ils sont face à face à l'employeur puis c'est one on one puis justement ils veulent pas perdre leur job fait qu'ils ouais. vont accepter dans la restauration c'est insane là, à quel point les normes du travail sont bendées là.
Mm-hmm.
Mais fait que l'autre pour rajouter du contexte mettons à syndicat de boutique on peut le comparer à d'autres formes de syndicats. Le syndicat de boutique, c'est vraiment le pire, là, entre
ouais.
guillemets, là, le plus collaboratif. Tu vas avoir des syndicats plus. Ils vont avoir d'autres syndicats partenariales qui vont faire une lutte assez combative au sein de l'entreprise,
mm-hmm.
mais qui n'aura pas de perspective politique
mm-hmm.
À l'extérieur. Tu sais. Ouais. Il n'y aura pas de perspective. Holistique, là, mettons, de mettre le travail capitaliste dans le contexte de la société au complet.
Ouais, ça, c'est le rêve d'Éric Duhem. Il dit « Les syndicats, ça fait de la politique. Ça devrait pas faire de la politique.
Mm. » Mais, fait que, t'as ces deux formes de syndicats-là qui, mm-hmm. justement, eux autres, ils font carrément la séparation entre le politique puis l'économique,
ouais.
tu sais. Puis, tu le fais bien, tu le mentionnes bien, là, Éric Duhem, puis pas juste lui, là, lui il le dit explicitement, mais
il y en a plein qui le pensent.
Toute personne qui défend en fait le capitalisme veut cette séparation-là entre l'économique puis politique. Ce qui se passe dans shop reste à shop, puis les droits que t'as quand tu travailles, c'est pas les mêmes droits que t'as quand tu vas voter ou quand t'es dans la rue, tu sais, en tant que citoyen ou citoyenne.
Oui, parce qu'il faut le dire, ben moi je sais pas c'est quoi votre avis là-dessus, mais la force la plus qui met en plus en danger le système capitaliste, c'est les syndicats.
Ben ça fait partie de
selon moi, c'est la première, tu veux faire la première chose que tu fais, c'est tu syndiques ton lieu de travail parce que le mal, il est là. C'est les, en tout cas, je ne veux pas tomber dans une grosse... dans le chien, mais c'est un peu ça.
Non, mais c'est un bon point. Là, ouais.
C'est la première...
C'est le core là, de notre oppression, en fait, parce que l'exploitation, la création de valeur se passe sur notre dos à ce moment-là, à cette place-là. Mais le fait que ça soit séparé du politique, ça fait en sorte que, justement, on n'a pas de pouvoir dessus.
C'est ça.
On a du pouvoir sur la société civile. Théoriquement, dans une démocratie, les politiciens et les politiciennes nous représentent, puis c'est à ce niveau-là qu'ils légifèrent surtout. Ce qui se passe dans le shop, effectivement, il y a des normes du travail puis tout ça, mais ça a plus rapport avec la relation travailleur-employeur. Puis, fait que maintenant vient d'autres formes de syndicalisme plus combatif, puis politique, qui vont avoir non seulement des revendications fortes pour leurs membres, mais aussi une perspective politique puis des revendications face au gouvernement pour augmenter le salaire minimum, augmenter la protection, la sécurité puis tout ça, pour faire changer les lois pour que justement le politique puis l'économique reviennent ensemble, t'sais, qu'on redonne l'aspect politique à la relation de travail, puis la démocratie ou derrière ça, t'sais.
Tout ce qui peut en fait profiter un peu à classe ouvrière, parce que c'est ça, c'est le l'arme première de la classe ouvrière, c'est un peu naturellement, c'est les syndicats. Bon, après, il y a toutes sortes plein de choses. Mais justement, tu m'as dit, tu le disais un peu, il y a beaucoup de syndicats qui, avec le temps un peu, puis ça, c'est ça, les syndicats boutiques, mais aussi les syndicats en général se sont dépolitisés.
Ouais.
Ils sont aussi, il y a eu le phénomène de centralisation, où maintenant, c'est des immenses centrales avec comme 14 niveaux de hiérarchie ou entre. Tu sais, je suis pas en train de dire que la FTQ ou la CSN au Québec, par exemple, parce que là, tranquillement, on va commencer à parler plus du Québec. Je dis pas que c'est de la merde, au contraire, je pense que ils ont un acteur, mais la réalité, c'est que les tops à CSN sont à 14 niveaux en haut du monde qui s'indique.
Ouais.
Puis ils font, sans vouloir être méchant, deux fois le salaire du monde qui.
Ah ouais.
Ce qui est comme très malaisant. Là,
Donc il y a eu comme un... À force de faire le partenariat avec le système, ben, éventuellement, les syndicats se sont transformés en entreprises un peu.
Ouais.
Ben, surtout en place où est-ce que les gens travaillent, puis ils ont un sens dans le système. T'sais, ça a un sens, ça a un rôle. Vous êtes des représentants, des défenseurs, défenseuses, des travailleurs, mais revendiquez pas plus pour eux ou pour elles. Il faudrait pas que le monde change parce que vous êtes votre place est là, tu sais, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant, mettons, avec la CSN et la FTQ, c'est de regarder leur histoire. Dans les années 70-80, autour de la Révolution tranquille puis aussi du mouvement indépendantiste, la FTQ et la CSN avaient carrément des ambitions révolutionnaires.
Ouais. Le grand chef de la CSN, j'oublie son nom, bâtard.
Chartrand?
Ouais. Si vous ne le connaissez pas, ce monsieur-là, allez voir des vidéos sur YouTube, c'est fantastique, là. C'est quelque chose.
Ouais. Ben, c'est ça. Lui, ça fait partie des figures de proue là, de la CSN, puis tout ça, mais puis qui avait carrément une optique politique, là, tu sais, que c'était comme... T'sais, mais pour vous donner un exemple, la FTQ, c'est clairement le syndicat le plus centralisé en ce moment, puis avec... un fonds d'investissement énorme, là. Mais dans les années 60-70, ils ont écrit un mémoire, c'est un manifeste qui disait comment, c'est un manifeste écrit avec des syndicats, je pense, de profs, mais comment l'éducation endoctrine nos enfants à comme devenir des êtres exploités, genre, tout ça. Comme il y avait vraiment une perspective sociale complète.
Très politisée.
Très, très politisée, c'est ça. Mais là, ça s'est transformé tranquillement à accepter que le syndicat est un acteur du capitalisme moderne, tu sais. Puis qui, avec les cotisations, puis avec les régimes de retraite, a une grosse force de capital. une grosse force d'investissement, dans le fond. Mm-hmm. Puis ce qui fait en sorte que maintenant, ben, la FTQ et la SASN, leur tranche financière, investit dans des projets immobiliers, par exemple, à Montréal. Mm-hmm. Puis dans toutes sortes de projets qui servent strictement à créer d'autres valeurs capitalistes. Là, t'sais, c'est pas... Puis ça, c'est donc l'argent des personnes syndiquées qui est investi là-dedans.
Ouais, ça, c'est à quel point, en fait, les syndicats sont devenus carrément des acteurs du système capitaliste. Puis ils viennent nuire. Puis c'est aussi une autre chose, moi, ce que je trouve intéressant. Puis il fait tellement bien un lien avec Amazon où c'est Amazon là, qui vient de se syndiquer. C'est comme du monde qui vient des entrepôts et tout.
Ouais.
Ça amène le monde à se politiser, au contraire, à parler de leurs conditions de travail parce qu'ils sentent que ce syndicat, là, genre c'est le Union, comment il s'appelle?
ALU, je pense. ALU, Amazon Labor Union.
Ils doivent se sentir que ça les appartient, qu'ils sont vivants et tout. Puis genre, ça les amène à en parler, à le vivre, puis à se mobiliser et tout. Mais le contraire, que maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'au Québec... Puis là, on est très critique. Je suis pas contre la CSN ou la FTQ. Là, je suis pas pour. Mais tu sais, quand tu as un syndicat qui est immensement, ça fait le contraire. C'est que le monde n'a plus envie de se mobiliser. Le monde, où quand ils disent de se faire mobiliser, ils se font placer comme des pions. Mm-hmm. Ou c'est du monde d'en haut qui dit ah, tel jour, on va aller en grève, puis toi, tu vas aller à telle porte, bloquer telle porte.
Mm-hmm.
Ils disent au monde dites, OK, vous allez bloquer votre édifice, faites-le comme vous voulez. Ça dérape, on va être là, puis on va envoyer les avocats vous défendre. Mm-hmm. Mais c'est pas du tout ça la game. Là. Ça démobilise le monde. Ça devient ou que ça nuit carrément au mouvement.
Puis aussi, je pense qu'un des problèmes, c'est qu'il y a très peu de solidarité entre les syndicats.
Mm-hmm.
Entre les différentes centrales, mais aussi entre les différents locales syndicales. Puis ben ça revient à dire qu'il n'y a pas de perspective politique aussi pour avoir un rapport de force plus grand. Moi, je pense à c'est en 2021 ou en 2020 qu'il y a eu la grève des... les dockers, les
gens au port, là.
Ouais, c'est ça. Les personnes au port, je me rappelle pas du nom
Les débardeurs.
Puis rapidement, ils ont eu une grosse grève difficile, puis là, quand ils ont comme décidé de la remettre sur pied, rapidement, l'État fédéral avait une loi spéciale, tu sais. Parce que là, on s'entend, le port de Montréal, c'est comme crucial pour l'économie nord-américaine. Puis fait que le Canada était comme impossible que ça arrête ça. Puis les autres syndicats sont pas pointés, les partis de gauche sont pas venus, tu sais comme ça, ils ont juste pas eu leur grève. Puis ça c'est constitutionnel, là. Genre ils ont le droit de faire la grève en convention collective, puis ils l'ont pas fait parce qu'il y a une loi spéciale. Puis fait que s'il y avait, mettons à travers le mouvement syndical, une solidarité comme il y avait dans les années 70. Mais là, c'est comme, vous respectez pas leur droit de grève, on se met en grève, nous autres aussi.
Mm-hmm.
Puis on se met, les autres aussi. Tu sais, plus des grèves de solidarité.
Puis tout le monde se tient, tu sais.
Ouais, c'est ça. Puis comme, tant que les autres débarquent pas, on débarque pas, tu sais. Après, on n'a plus cette culture-là. Puis aussi, ben, le droit de la grève au Canada est très faible. Genre, il est vraiment... Justement, tu sais, les lois spéciales,
c'est un exemple. Qui, systématiquement, aujourd'hui, tu parlais du port, mais il y a quelques années, post-Canada aussi, rapidement, boom, loi spéciale, partout, là, les gouvernements sont même plus gênés de le faire.
Non, c'est ça, mais en pire que ça, c'est qu'au Canada, on a le droit de faire la grève seulement pendant la négociation.
Ouais.
Si on regarde ailleurs, tu sais, ça peut aller de soi, là, genre, à y réfléchir de même, c'est comme, fair, c'est pendant la négociation, vous avez le droit d'exercer votre pouvoir, tu sais. De négociation, finalement. Mais en France, c'est un droit constitutionnel, la grève. T'as même pas besoin d'être syndiqué, puis t'as le droit de faire la grève.
Puis ça brasse.
Puis leurs conditions ont augmenté comme ça. Après, là, ça régresse depuis une dizaine d'années en France. Là. Mais tu sais, pour dire, ça prend un mouvement actif tout le temps pour que ça régresse pas. Justement, de ça, nous autres, depuis les années 70... T'sais, là, depuis tantôt, on a identifié qu'il y a comme une décroissance du mouvement syndical depuis le néolibéralisme, les années 90-80.
Mm-hmm.
Puis c'est en même temps qu'on sait qu'il y a une perte du pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses comme systématique en ce moment, depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Le salaire minimum n'a pas augmenté comparé à l'augmentation du coût de la vie. Puis là, c'est encore pire, l'augmentation du coût de la vie, ça n'arrête pas. Fait que c'est ça, ça prend. Ça, pour avoir un mouvement syndical fort, ben pour avoir des meilleures conditions de travail, ça prend un mouvement syndical fort, pas juste dans les shops isolés. Ça prend, ça prend une solidarité, ce qu'on appelle des fois un front commun.
Oui.
Puis qui a eu lieu là, dans notre histoire. Ouais. C'est quelque chose qui peut qui pourrait revenir. Après, potentiellement, il faut que ça vienne de la base parce que en ce moment, comme tu l'as dit, ben nos syndicats sont runnés par des patrons syndicaux, dans le fond. Puis qui partagent pas les intérêts des personnes qui ont ben, eux autres intérêt à revendiquer plus puis mieux. Là.
Mais c'est pour ça aussi, tu sais, je suis comme. C'est ça que je trouve trippant dans l'histoire d'Amazon. Tu sais. D'un, ben, tu sais, c'est comme j'espère que ça va faire boule de neige, puis j'espère que ça va comme vraiment se aller partout, même. Tu sais, même au Québec, je souhaite vraiment que le monde qui travaille dans. Pas dans les usines, là, parce que c'est pas des usines, mais les entrepôts d'Amazon se syndiquent, mais j'espère qu'on puisse s'inspirer de ça ici, chez les syndicats, pour qu'on change justement cette vision-là très négative de comme c'est juste ils vont venir chercher de l'argent sur nos salaires puis sont pas contents. Parce qu'il y a des jobs encore qui ont des bons syndicats combatifs, puis le monde sont contents, tu sais. Pas d'exemple, tu sais, je sais que, par exemple, Renaud Bré, quand même, c'est un syndicat qui se bat beaucoup, puis les employés, quand même, se mobilisent, puis c'est, tu sais, on le sait, le monde critique beaucoup l'entreprise, ils n'ont pas le meilleur, justement, boss, patron, mais justement, le monde sur le plancher, ça se mobilise, puis c'est elle, puis il y a quelques années, il y a eu une grève là-bas, tu sais, puis, donc, tu sais, il faut, je pense qu'on gagne beaucoup à, comme, parler de, comme, repenser notre manière, repenser nos mouvements, parce qu'ils sont nécessaires, tu sais. Puis ça va faire la différence, mais je pense qu'il y a un examen de conscience qui est nécessaire.
Ouais. Puis c'est une réorganisation que ça prend. Comme potentiellement, il faut montrer à l'élite syndicale qui est peut-être obsolète ou que la bureaucratie a fini par se retourner contre le mouvement puis l'objectif même. Là, t'sais. Moi, je pense qu'on peut parler là, du même problème que dans certains partis politiques. Qui ont perdu leur objectif de vue à force de juste chercher à exister. Le PQ, c'est l'exemple premier là, qui me vient en tête, là, mais il y en a eu d'autres là, où est-ce que comme ben, à force de juste vouloir être un parti, ben, t'oublies que l'objectif c'était de faire la souveraineté du Québec. Là, fait que dès que t'es au pouvoir, tu dis non, inquiétez-vous pas, on fera pas de référendum, comme on va pas faire ce qu'on. T'sais, ce pourquoi on a été créé finalement. Mais les syndicats sont un peu pognés là-dedans. Mais encore pire, tu sais, il y a ce processus-là ce qui se crée. Mais encore pire, c'est qu'ils ont une position contradictoire dans le capitalisme aussi.
Ouais.
Parce qu'ils sont comme permis d'exister parce qu'il faut que les travailleurs soient quand même gardés contents. Mais en même temps, si on pousserait l'objectif des syndicats ou comme le noyau, le sens profond du syndicat jusqu'au bout, ça remet en question le capitalisme. Tu sais. Comme le syndicat, c'est dans son sens profond, c'est pas juste protéger les travailleurs et travailleuses, c'est faire en sorte qu'ils et elles aient plus de pouvoir sur leur travail. Puis éventuellement, ça serait de l'avoir au complet. Puis l'avoir au complet, ça remet en question toute la relation de salaire puis de travail produit de manière capitaliste. Fait que là, ils sont pognés dans cette contradiction-là. Puis j'ai l'impression que depuis les années 80-90, où est-ce qu'ils ont été mis sous pression vraiment forte, ben ils ont capitulé du côté genre de la collaboration plutôt que du côté de la révolution, en fait, puis de la remise en cause du système. Là.
Ils ont baissé pavillon. Mais si on peut avoir espoir que des fois, j'ai espoir justement qu'à un moment donné, ça va. T'sais, j'ai vu Amazon, mais t'sais, je sais qu'aussi il y a d'autres compagnies où il y a quand même des mouvements, où je pense Starbucks aussi.
Ouais, Starbucks, ça fait vraiment...
ils essayent.
Ils essayent puis ils réussissent. Là, aux States, c'est comme les shops s'ouvrent, se syndiquent comme ça. Mais c'est, encore une fois, c'est une bonne façon d'utiliser la manière avec laquelle le travail est organisé. C'est une franchise. Fait qu'ils ont le même modèle partout. Si ça marche à une place, l'organisation, ça va marcher là-bas. Fait que là, eux autres, ils envoient des délégués de l'autre syndicat qui a marché, ils l'envoient, ils vont parler avec les autres. T'sais.
Ouais, parce que c'est du monde qui font exactement la même job que toi.
C'est la même job dans le même contexte quasiment. Il y a des contextes différents un peu. Genre, bon, t'es à côté d'une université, fait que t'as plus de rush, mais genre, sinon, c'est carrément designé de la même manière à l'intérieur. Fait que tu peux répéter ça. T'sais.
T'utilises
l'organisation du boss ça. pour répéter le combat. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'on est quand même à un turning point, là, comme où est-ce que la syndicalisation reprend un peu, genre mm-hmm. de manière positive, en Amérique du Nord, en tout cas. C'est très modeste là, comparé à des aux chiffres des années ouais. 70 et où est-ce que le rapport de force était différent. Il faut se rappeler qu'à la fin des années... dans les années 50, 60 puis 70, c'est ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, là, mm-hmm. il y avait aussi le bloc communiste mm-hmm. qui représentait carrément une société différente, genre, puis les patrons puis les chefs d'État en Occident capitaliste savaient que s'il y avait une révolution qui allait venir, ça serait des travailleurs mm-hmm. et travailleuses. Fait qu'il fallait quand même leur donner des trucs. Ouais. Fallait pas les laisser... Puis c'est là qu'il y a eu le plus de gains là, qui ont été ouais. faits. Mais là, maintenant que l'histoire est finie, que le communisme ouais. est aboli, c'est all out, fuck off. On fait juste le capitalisme. Puis de toute façon, vous êtes plus capable d'imaginer autre chose.
Mais c'est ça, ouais, exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais tu vois, moi, ça donne espoir, puis mm-hmm. je pense qu'il faut s'y intéresser vraiment, puis il faut suivre mm-hmm. ça, parce que peut-être ça va faire boule de neige, peut-être ça va amener soit des centrales syndicales top à peut-être changer leur mm-hmm. manière, ou à d'autres à de syndiquer, parce que c'est pas fini, parce que de toute façon, on le voit bien, là, que c'est pas vrai que tout le monde est heureux dans le système capitaliste, là. C'est un fucking mensonge, puis ouais. on le voit, là. Ouais. Ces entreprises-là, si on fait rien, ils vont juste continuer à exploiter là. Mais hey yo, Nick, le temps file, puis genre, la conclusion, je voulais te parler avec toi, parce que du podcast Gauche, Gauche c'est
Gauche
le podcast.
C'est le podcast.
C'est quoi, comment tu le présenterais, ce podcast?
c'est surtout une raison pour laquelle moi, Guillaume puis Simon, on se rencontre. Ouais. Là. Mais sinon, le concept, c'est surtout d'essayer de parler d'enjeux politiques de gauche sans tomber dans une espèce d'intellectualisme. Là. Mm-hmm. T'sais, on est sortis, on est tous allés à l'université, puis on est sortis de là un peu désabusés de justement tous les concepts en isme, genre, mm-hmm. puis surtout de la philosophie postmoderne qui va mm-hmm. un peu trop loin, puis qui est plus proche du terrain des vaches, ouais. là, dans le fond. Fait que c'est d'essayer de ramener ça à ça, de ramener ça à une certaine vulgarité carrément. Ouais. Puis on a vraiment beaucoup de fun à le faire, puis ouais. c'est ça.
Non, puis ça se voit, puis ça jase. Puis d'ailleurs, c'est ça, si vous avez aimé cette discussion-là, c'est quand même dans ce style-là, quand même.
Ouais,
un
c'est
peu...
ça. On jase souvent de ça. On aime beaucoup passer du temps à rosser Éric Duhaime, puis ouais. Jean Charest, puis tout ça. Là. Dernièrement, c'est ça, le dernier épisode, on a parlé un peu de Jean Charest, qui est passé à Tout le monde en parle.
Ouais.
Puis de l'état du monde en Ukraine, puis tout ça, ouais. comment ça va bien. Puis on aime beaucoup. Parler de comment il y a une crise économique qui s'en vient, puis on va toute la sentir fort en estime, mettons. Là.
Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous faites pas mal un tour de l'actualité ouais. en disant tout. Puis, c'est ça qui est. Autant, je suis pas toujours d'accord avec vous, mm-hmm. mais après, tu écoutes, puis chacun, vous avez votre style. Puis,
c'est ça. C'est quand même, on n'a pas les perspectives complètement alignées, là, les trois non plus. Là.
Non, mais c'est un bon podcast à écouter. T'sais, moi, je vous écoute de temps en temps, j'ai bien du plaisir. Puis. C'était très cool de te recevoir, Nick. C'était vraiment
merci
nice.
Beaucoup.
Moi, on dit que c'est cool de parler des syndicats, puis de la gauche, puis tout, puis on s'amusait. Puis toi, Thomas, est-ce que... Mettons, toi, t'as eu une mauvaise expérience syndicale, mais est-ce que tu te syndiquerais demain? Ben là, je sais que t'as...
Ben là, je travaille autonome, mais...
Ouais. Ouais, c'est un autre problème.
N'importe quand.
Ben moi, j'encourage n'importe qui ouais. cherche de quoi à faire à... carrément aller se pogner une job à Amazon puis ouais. commencer à passer des trucs. Ouais.
D'ailleurs, j'aimerais...
Devenir des taupes.
Ouais, c'est ça.
J'aimerais ça qu'on finisse avec... Puis ça, tu l'as dit, je sais que tu t'en as parlé à, justement à Gauche Street Podcast, la phrase de Chris Small, tu sais, un peu de la logique de... Il disait un peu de comme nous, on est tanné de comme changer d'une job à
oui.
l'autre, tu sais. Ça, c'est une scène, qu'est-ce qu'il disait? C'est comme, on est tanné de toujours faire comme, ah, ben, si t'es pas content, va ailleurs.
Ouais.
Mais il dit comme, non, emmener ça arrête, là.
Ouais.
Puis là, on va changer nos conditions
c'est
de travail, là. Ça, c'est insane.
Ça, c'est vraiment prendre le courage de dire, c'est fini, justement, de juste démissionner, puis comme, avoir espoir que ça soit meilleur ailleurs quand, effectivement, c'est moins bon, puis genre, descend en bas de l'échelle, puis tout ça. Fuck that. Puis après aussi, si Amazon réussit à être syndiqué. Si le mouvement arrive à syndiquer plusieurs entrepôts, ça va ouais. carrément faire augmenter les conditions de travail de plein de gens, pas juste les gens d'Amazon. Parce que par l'effet de la compétition, ça augmente les conditions à tout le monde. Ça, on l'a vu, je sais que tu voulais conclure, là, mais on l'a vu dans les années 60 aussi au Québec, quand que la fonction publique a été syndiquée. Toutes les conditions de travail de tout le monde, même au privé qui sont pas syndiqués, ça a augmenté parce que c'est comme, ben Chris, je vais aller travailler pour l'État, là, si tu me payes pas 30$ de l'heure, je m'en vais là-bas, puis eux autres, ils payent il y a un régime de retraite. Fait que s'il y a plus de syndicalisation, plus qu'il y en a, plus que les conditions de tout le monde augmentent.
Ouais. C'est ça, puis c'est moi, ce que j'aimais dans cette logique-là, c'était emmener comme, il y en a marre de se faire complètement genre exploiter par du monde. Puis qu'en réalité, ils ont besoin de nous.
L'achat ne run pas sans toi.
L'achat ne run pas. Donc, nous, en on fait comme non. Là, on dit non. On s'indique. Puis nous, on va améliorer nos conditions de travail. Puis ça, vraiment nice. Puis aller voir ce qu'ils ont fait. Sérieux, là. Puis tout le leader, surtout lui, c'est vraiment génial. Puis cette histoire-là est inspirante.
Espérons qu'ils arrivent à bien négocier aussi, là, des bonnes conditions. Parce que, tu sais, comme.
Ce n'est qu'un début. Là.
C'est ça. C'est la job, elle vient juste de commencer. Le faire passer le vote, c'est quelque chose. Mais après ça, c'est revendiquer des vraies bonnes conditions de travail, puis voir justement à quel point on va pouvoir les juger rendus là. Maintenant, on a le jugement, mettons, approve de leur manière d'organiser une campagne. Puis voyons voir maintenant qu'est-ce qui arrive après. Là.
Nicolas Lemieux, merci d'être venu au Bonne Politique. C'était fucking nice.
Merci, bien merci à vous les gars. À la prochaine.
Merci, bye.